Chapitre 23. C'était fini. L'école de Pertan était donnée à un autre. Donna Brunel n'avait qu'à déménager, et plus vite que ça, car il était remplaçant temporaire et l'autre, le titulaire, pressé de gagner ses émoluments, n'en voulait pas perdre une semaine. Une sorte de fatalisme glacé transformait la première crise de révolte en un découragement automatique, sans plainte, un peu effrayant. Madame Christelin se demanda quelle haine de la vie couvait sous l'air hautain, indifférent, de ce grand garçon frêle aux lèvres serrées, aux joues pâles, et qu'on ne savait plus comment aborder. Le soir même de son échec, il était venu à la Buissonne demander un conseil, et surtout qu'on lui permît de remiser sa mal laissée livre dans un coin le plus tôt possible. « Mais non, je ne me plains pas, » répondit-il froidement aux tendres doléances de tante Inès. Ma moyenne était 8-7, l'autre avait 8-9. Comment ils ont cuisiné cette moyenne-là, c'est leur affaire. L'autre avait 4 fautes d'orthographe dans sa dictée. Je le sais, nous en avons parlé ensemble dans un intervalle. Il m'a demandé si on écrivait illuminé avec un L ou deux, etc. Ce sera toujours ainsi, etc. On pourra mettre sur ma tombe Donna Brunel, retoquée ici, retoquée là, etc. Tante Inès ne prenait pas cet air tragique. « Qu'est-ce que tu vas faire ? » dit-elle. « Ah, je vous le demande. Veux-tu rester ici quelque temps, le temps de te retourner ? En face de mon école ? Ah non, merci. En ville alors ? Tu as un peu d'argent devant toi ? Mes économies de 6 mois, je comptais rembourser déjà 200 francs à la commune. » Il m'en resterait encore 100, car je n'ai guère dépensé plus d'un franc par jour, grâce à vous, et puis un costume, un petit viatique à mon père. 100 francs, ce n'est pas assez pour aller en Amérique. « Attends un peu, » dit Madame Christelin, toute saisie. « C'est ce que je compte faire. Je vais chercher de l'embauche en ville. N'importe quoi. D'être instituteur, il n'y faut plus songer. Qu'est-ce que mon directeur, et les profs, et Monsieur Jean-Richard, et chacun, enfin, va dire de me voir, après 6 mois, revenir comme un chien fouetté ?»« Mais, Seigneur !» s'écria Madame Christelin, pour qui ce nom n'était pas un vain mot. « Mon pauvre Donna !»« Pauvre Donna, pourquoi ? 100 francs d'économie à 19 ans, c'est un beau résultat. Et une meule de moulin au cou. Et nage avec ça, mon petit, le monde te regarde !» Ce fut la seule explosion. Donna ne dit plus grand-chose, retourna à la ville et fit une courte visite à son tuteur, dont les quelques mots déçus, lorsqu'il mentionna son échec, le blessèrent jusqu'au fond de son être. Il ne vit pas Esther, elle faisait un remplacement, le premier, dans un petit village, et sa mère parla surtout des ennuis, de l'inconfort, de la solitude qui menaçait la pauvre enfant. Elle n'est pas faite pour ce genre de vie, elle a de tout autre goût. Espérons qu'elle obtiendra un poste en ville qui lui permettra de revenir auprès de vous, fit Donna le cœur serré. Oh, elle ne sera pas maîtresse d'école bien longtemps, murmura Madame Jean-Richard avec un sourire. Mais toi, reprit son tuteur, qu'est-ce que tu vas faire en attendant les concours du printemps? Il regarda sa femme. N'allait-elle pas spontanément, comme il était naturel envers un pupille, lui dire « Reviens chez nous, personne n'a pris ta place. » Non, elle se mordit les lèvres une minute, comme réfléchissant, puis elle prononça « Il y a des chambres modestes, déjà, pour 8 francs par mois. Veux-tu que je m'en occupe ?»« Merci, vous oubliez que je suis un grand garçon, » répondit-il, souriant comme elle. « J'ai 300 francs devant moi, car je ne vais pas commencer mes remboursements tout de suite. »« 300 francs ? Mais c'est magnifique !» L'accueil de Jacques Mestral fut bien différent. Jacques, en plein dans son activité coopérative, travaillait comme un nègre, bûchait comme il n'avait jamais bûché. 15 heures par jour, on ne ferait pas ça pour un patron. Mais tout était à organiser. Les camarades étaient un peu mous, ou bien un peu gauche, bon garçon, mais pas accoutumé à mener une barque, et puis, ayant chacun une spécialité, l'un les remontoirs, l'autre ne connaissait que les pièces à clé pour la Chine, l'autre était dans les très petites pièces, et Jacques, le meilleur ouvrier, qui avait fait un apprentissage pour les calibres compliqués et les répétitions, n'était pas habile dans la camelote. On avait du travail, oui, il en venait d'ici et de là, c'était un peu bigarré. Jacques tenait les comptes le soir, il répartissait la paie le samedi. À chacun suivant ses besoins, à chacun suivant ses forces. Comme ses besoins étaient les plus minimes et ses capacités les plus grandes, c'était lui qui fournissait le plus et recevait le moins, comme de juste. Il ne s'en plaignait pas, il était heureux et il riait en racontant ce début à Donna. Ils étaient assis en face l'un de l'autre, au coin de l'établi, dans le grand atelier vide qu'éclairait un quinquet d'horloger, avec son verre bien frotté, son capuchon de carton et son réservoir en laiton poli. Il était 10 heures du soir, le couvre-feu sonnait encore, derrière les fenêtres, quelques flocons de neige tournoyaient indécis. « Écoute, dit Jacques, si j'osais, je te proposerais une chose, mais... »« Ose, fit Donna. Nous avons besoin d'un garçon pour nos courses. » Je pensais à un petit garçon, un peu robuste, qui balayerait, qui laverait les fenêtres et qui préparerait les quinquets. 10 francs par semaine, ça te nourrirait à peu près. À présent, foudroie-moi si tu veux, avec tes diplômes et ton latin. Comment donc ? J'accepte. C'est déjà bien de l'honneur pour un fils de récidiviste, s'exclama Donat avec ironie. Vous n'avez pas peur que mon père vienne me voir et vous chipe vos chronomètres ? « Blague pas, tu me fais mal, dit Jacques. Je t'avouerai que jusqu'ici, notre camarade Favre, celui qui a 5 gosses, s'est chargé de ses besognes, commissions, quinquets, etc. Seulement, il les fait le plus possible pendant les heures d'atelier. Il aime prendre l'air, il aime facter, comme on dit. Et alors, à 7 francs par jour, les courses reviennent chères. Le pauvre diable n'a pas encore compris le principe. Et alors, toi ? Tu remontes des pièces compliquées, tu fais les comptes, la correspondance, des heures supplémentaires, à combien par jour ? Mon petit, fit Jacques en riant, tu n'es pas un coopérateur. Mêle-toi toi, toi, comme ils disent à Genève. Tu comprends que nous faisons une expérience. Ça durera ce que ça pourra. Ah, vous en êtes là, murmura Donna songeur. Les semaines qui suivirent lui furent une révélation nouvelle. Et comme Donna s'intéressait beaucoup à lui-même, il revint en arrière dans ses pensées, il fit une revue des diverses couches sociales qu'il avait déjà traversées, de Martin Coquart à la Buissonne, remontant sur son passage bien des types divers, le paysan, le contrebandier, l'instituteur ambitieux et jeune, le professeur solennel, l'horloger fin et distingué qu'était son tuteur, le savant mathématicien qu'était M. Lestienne et les chers Christelin, et les dames bien élevées qu'il avait vues à leur table, Jacques, qui ne ressemblait à personne d'autre, et les sociaux de l'atelier, des camarades d'école de toutes les catégories, riches et pauvres, et Esther, sa reine Esther. Donna n'était pas loin de s'imaginer qu'il possédait déjà toute l'expérience humaine. Un jour, il rencontra Roger Lestienne fort emmitouflé, qui l'arrêta. « Tiens, c'est toi ?» Ce que c'est difficile de ne pas dire cette banalité-là. Je m'étais promis de ne plus la dire. Et qu'est-ce que tu fais ici ? Je gagne ma vie, je suis banal, répondit Donna, tandis qu'une hostilité sourde montait en lui. Un remplacement en ville ? Non, mon remplacement est fini. Je fais les courses d'un atelier. Je suis commissionnaire, balayeur, chauffeur de poêle. C'est bien ça, c'est américain. « Ce n'est pas banal !» s'écria Roger avec enthousiasme. Il avait des gants fourrés et il relevait plus haut que ses oreilles le col d'astrakhan de son pardessus. Donna était en veston et sans gants. « Et toi, tu étudies ? » demanda-t-il. « Je fais des mathématiques avec mon père. Tu vois ça d'ici. Je ne me la foule pas. J'entrerai à l'école polytechnique au printemps si je passe. » En attendant, il y a l'hiver avec ses agréments, le rhume, la danse. Tu devrais bien venir me voir de temps en temps. Tu me tonifierais. As-tu besoin d'être tonifié ? Qu'est-ce qui te manque ? Fit Donna assez brusquement. La jolie figure de Roger se plissa dans une sorte de grimace douloureuse qui la fit toute menue, toute ratatinée et chagrine comme une figure de vieux. Rien et tout. La vie est banale. Une sorte de colère s'empara de Donna. Comment ce garçon-là avait un père considéré, une position toute prête, des facilités et des facultés, et tout l'avenir, toutes les ambitions ouvertes, toutes les joies à sa portée? Il trouvait la vie banale, cet amateur. Tiens, mon plus joli moment, poursuivait Roger, a été cette horrible minute où je désespérais d'entendre mon nom dans la liste des premiers et où je l'ai entendu. J'ai vécu, mon cœur se tordait, puis s'arrêtait. C'est délicieux, ces angoisses-là. Je t'en souhaite d'autres, fit Donna laconiquement. Oui, mais on se blase même là-dessus. La prochaine fois, ce ne sera plus ça. Il me faudrait, par exemple, me trouver dans une grande ville tout seul, sans un sou dans ma poche, affamé, et voir ce qui arriverait. Ou bien rencontrer une jeune fille que j'aimerais éperdument et qui me détesterait. « Es-tu capable d'aimer éperdument ?» murmura Donna, la voix un peu indistincte. « Non, du moins je ne le crois pas. Je suis banal. Je prends continuellement la résolution de ne pas être banal, et puis j'y retombe par la seule force d'inertie. Dis-moi donc quelque chose. »« Ma foi, non, ton cas ne m'intéresse pas du tout, » rétorqua son camarade avec une brutale sincérité. Et il reprit sa marche sur le trottoir étroit, bordé de petits murs de neige, qu'une brèche creusait ici et là pour donner accès sur la chaussée. Le ciel était d'un gris plombé. À l'extrémité de la rue, vers le couchant, une lueur rouge soulignait cette tristesse, l'accentuait tragiquement, tout comme, dans l'âme de Donna Brunel, la révolte brûlante colorait le fond morne de la vie difficile. « Et puis, tu poses !» ajouta-t-il au bout d'un instant, car Roger ne le lâchait pas. « C'est bien possible, » répondit le jeune sceptique. « Sait-on jamais si on est sincère ?»« Je connais des sincères, moi. »« Moi aussi. Mon père, par exemple, quand il craint pour moi la perdition temporelle et éternelle. Voilà encore qui est banal. » « Ah tiens, tu mérites toutes les misères !» s'exclama Donna indignée. « Blaguer un père comme celui que tu as ?» Et il le quitta sans autre cérémonie. Plus tard, le soir, quand l'atelier fut solitaire, il raconta cette conversation à Jacques Mestral. « Ces pauvres fils à papa, et celui-ci, le plus à plaindre de tous, parce qu'il ne sera jamais un jouisseur, » dit Jacques. « Tu devrais nous l'amener, ton amateur. Nous en ferions un joli petit anarchiste. Il est mûr, non pas que j'en tienne pour les anarchos. » Nous sommes, au contraire, des réorganisateurs. » Il poussa un soupir et s'accouda sur le pupitre où ses livres de comptes étaient ouverts. « Tu sais, si tu veux que je balaye, il faudra t'en aller, » dit l'homme de peine. Jacques ne parut pas entendre. Il était souvent préoccupé et distrait ces temps-ci et Donna ne se sentait pas entièrement rassurée sur l'avenir coopératif. « Trouves-tu que ça marche ?» demanda-t-il, debout derrière son ami. Comme il ne recevait pas de réponse, il alla prendre les 5 quinquets sur les établis et les emporta dans la petite pièce obscure qu'on appelait le cabornion, où se trouvaient les balais, les torchons, les caisses, tout le débarras. Il revint. « Visseux n'a pas travaillé aujourd'hui, » fit-il. Et, au bout d'une minute, il ajouta « Tu pourrais répondre au moins une fois sur 10, ce serait mieux que rien. » « Tu dis ?» fit Jacques comme sortant d'une rêverie et se retournant. Bien qu'il eût été entendu que, dans l'atelier coopératif, personne n'était chef, que le seul principe directeur reconnu était la bonne entente, il fallait pourtant, dans la pratique, un camarade central. Jacques l'était devenu par la force des choses, parce qu'il était le plus travailleur et le plus capable. S'il ne distribuait pas la besogne, il en proposait du moins chaque matin la répartition et il allait même jusqu'à esquisser des tâches qu'il fallait accomplir jusqu'au soir. Mais Donna trouvait qu'il aurait dû exercer une discipline. On parlait beaucoup dans cet atelier. Visseux était un mime et un blagueur, une demi-heure est vite passée à faire le polichinelle. Et Jacques continuait à travailler comme si de rien n'était, le dos tourné à ce désordre. Il n'avait pas même protesté, la veille, quand Fabre... Oh, quel flemmard que ce Fabre ! De mauvaise humeur, parce qu'on lui avait supprimé ses petites promenades, lui avait appliqué un nom injurieux. Perra demandait où on avait fourré la cire à cacheter. Il faisait un paquet pour la poste et Fabre avait répondu, hargneux, « C'est pas, demande au singe !» Cette plaisanterie durait encore. On se la lançait d'un établi à l'autre sans que Jacques eût même l'air d'y faire attention. Son souci paraissait l'absorber. « Je te demandais si ça marche !» répéta Donna, très content de voir enfin le visage de son ami se détourner des livres, se tourner vers lui. « Tu as l'air aussi écrasé d'inquiétude qu'un patron. C'est pour ça, sans doute, que les camaros t'appellent le singe. »« Il m'appelle le singe !» fit Jacques, la mine étonnée et chagrine. « Voyons, ils n'ont fait que ça aujourd'hui, à ton nez. Tu n'es pourtant pas distrait au point de... » « Je suis très distrait, dit Jacques. Eh bien, laisse-moi te dire alors que tu devrais te réveiller, ouvrir l'œil. Ce qu'on perd de temps dans votre boîte, ce qu'on y rigole... »« Oui, c'est la détente, fit Jacques avec indulgence. On était des esclaves l'autre jour, on est ses maîtres aujourd'hui. On est un peu grisé, on se paie du bon temps. On chahute, si tu veux. Ça passera, tu les verras bien tous calmés, bien tassés dans quelques semaines. » « En attendant, qui est-ce qui leur paie ce bon temps ?» demanda Donna, toujours pratique. « Qui est-ce qui est le nègre de toute la bande ?»« Et si ça me fait plaisir ?» dit Jacques. Ses yeux noirs, intenses et mats, des yeux qui ne se laissaient pas pénétrer, étaient arrêtés sur la figure de Donna, un peu énigmatique dans leur fixité observatrice. C'était de ces yeux qui n'ont pas de transparence, qui semblent n'avoir ni prunelle ni iris, n'être rien qu'une grande tache sombre dont le noir absorbe toute la lumière sans en rien réfracter, ses yeux tristes qui sont toujours un peu battus et cernés et qui vont avec un teint gris, avec des traits peu réguliers mais expressifs, avec une santé pas fameuse mais qui tient bon. Ah, si ça te fait plaisir, c'est différent. Seulement, la base est mauvaise, prononça Donat, toujours un peu tranchant de sa nature.